Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأس والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir, bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce samedi 19 novembre 2022. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute, restez avec nous. Téhéran fustige le silence de la communauté internationale face aux actes terroristes en Iran. L'attaque aérienne d'Israël contre le port syrien de Bani Assaf fait 4 morts. Et la sécheresse extrême aggrave la faim dans la corne de l'Afrique, qui est également en proie à des conflits, avertit le programme alimentaire mondial. C'étaient les principaux titres, en voici le détail. Suite aux récents attentats terroristes en Iran, le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que la communauté internationale se devait de condamner ces actes terroristes et prendre les dispositions nécessaires pour contrecarrer le regain de violence. La grande nation iranienne et la communauté internationale ont été témoins de la cruauté d'un groupe de terroristes contre des civils et les forces de sécurité iraniens dans les villes d'Izeh, Isfahan et Mashhad. Malheureusement, des compatriotes, dont des femmes et des enfants innocents, ont été tués ou blessés dans des attentats terroristes, précise le communiqué. Le ministère iranien des Affaires étrangères a fermement condamné ces attentats terroristes abjects et a exprimé ses condoléances aux familles des victimes et au peuple iranien. Sans aucun doute, le silence délibéré des parrains étrangers des émeutes et des violences en Iran vis-à-vis des attentats terroristes ne fait que propager le terrorisme à travers le monde, note le communiqué. Les tueries dans les villes d'Izeh, Isfahan et Mashhad qui ont subi l'attentat de Shahrcherag à Shiraz prouvent une fois de plus comment les ennemis de l'Iran cachent leur vrai visage derrière le masque de la sympathie avec le peuple iranien. Les lois internationales condamnent le terrorisme dans toutes ses formes, en tout lieu et à tout moment. Par conséquent, la communauté mondiale et les organisations internationales se doivent d'empêcher la création d'un foyer de propagande de la violence et de l'extrémisme, ajoute le communiqué. La République islamique d'Iran se réserve donc le droit de poursuivre en justice les terroristes et leurs sponsors de l'étranger, selon le ministère iranien des Affaires étrangères. À l'appui des travaux des services de renseignement, tous les appareils diplomatiques de la République islamique d'Iran conjuguent leurs efforts pour assurer la défense des droits de la nation, de la souveraineté et de l'indépendance du pays. L'Iran a interdit l'importation d'automobiles françaises en raison du comportement non professionnel de Paris et ne lui permettra pas d'exercer des pressions sur l'industrie et le marché automobile du pays en recourant à des sanctions, a déclaré ce vendredi 18 novembre le ministère iranien de l'Industrie, des Mines et du Commerce. Il a déclaré qu'aucune licence n'avait été récemment délivrée pour l'importation de voitures en provenance de France, soulignant que l'industrie automobile iranienne se concentrait désormais uniquement sur les produits non français, principalement en provenance du Japon, de Chine et de certains pays européens. La décision a été prise alors que les tensions entre Téhéran et Paris sont montées d'un cran ces derniers mois à la suite des émeutes éclatées en Iran après la mort d'une Iranienne de 22 ans, Mahsa Amini, à la mi-septembre. utilisant les manifestations comme couverture, les émeutiers et les voyous, dont beaucoup avaient des liens avec des partis étrangères, se sont déchaînés, se livrant à des attaques sauvages contre des agents de sécurité, à des actes de vandalisme, à la profanation de lieux sacrés et à des meurtres sous fausse bannière de civils pour incriminer la police iranienne. La France a été l'un des pays européens à s'ingérer dans les affaires intérieures iraniennes. Elle a vivement critiqué ce qu'elle a qualifié de répression des manifestations, l'Union européenne imposant une série de sanctions aux responsables et entités iraniennes. Le président français, Emmanuel Macron, a rencontré la semaine dernière un groupe de dissidents iraniens et s'est engagé à soutenir la soi-disant révolution en Iran, ce qui a provoqué la vive réaction de Téhéran. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a condamné la réunion. Il a déclaré qu'il était regrettable et honteux que Macron ait exprimé son soutien aux émeutes. Certains ressortissants français ont été détenus en Iran ces derniers mois. Le ministre iranien de l'Intérieur, Ahmad Vahidi, les qualifiant mercredi d'agents du renseignement français qui seront traités conformément à la loi. Ce samedi 19 novembre, l'armée de l'air israélienne a frappé au missile le port de Banias. 4 militaires syriens ont été tués. L'armée israélienne a lancé une attaque aérienne contre le port syrien de Banias, situé sur la mer Méditerranée, entre Latakia et Tartous, vers 6h30 ce samedi 19 novembre. Les zones centrales et côtières ont été visées. Selon l'agence de presse officielle du gouvernement syrien Sana, le système de défense aérienne de l'armée syrienne a intercepté plusieurs missiles. La frappe a fait 4 morts côté syrien, un blessé et des dégâts matériels. Parallèlement, une attaque au missile a eu lieu contre la base militaire américaine dans l'est de la Syrie. Selon la chaîne Telegram Savery News, il s'agit de la base militaire dans le champ pétrolier d'Al-Omar dans la province de Deir ez-Zor. Dimanche 13 novembre, des rapports faisaient état de frappes aériennes contre la province de Homs. Les missiles ont traversé le Liban avant d'atteindre Homs, selon les images vidéo parues. La DSA syrienne a aussitôt réagi, a réussi à en intercepter plusieurs. Le bilan des dégâts causés n'a pas été communiqué. La Syrie a envoyé à plusieurs reprises de nombreuses lettres distinctes au Conseil de sécurité condamnant l'agression d'Israël contre le territoire syrien, lui demandant de prendre les mesures nécessaires pour mettre court à ses hostilités. Le gouvernement syrien accuse le régime sioniste et ses alliés occidentaux et régionaux d'assister les groupes terroristes en Syrie et se réserve le droit de défendre sa souveraineté. Israël frappe fréquemment des positions militaires à l'intérieur de la Syrie, en particulier celle du Hezbollah, qui a joué un rôle clé en aidant l'armée syrienne dans sa lutte contre le terrorisme soutenu par l'étranger. Israël est également l'un des principaux tenants des groupes terroristes qui s'opposent au gouvernement du président Bachar al-Assad. La Russie a accusé vendredi 18 novembre l'Ukraine d'avoir exécuté brutalement plus de 10 de ses militaires qui avaient été faits prisonniers dénonçant un crime de guerre. Personne ne pourra présenter le meurtre délibéré et méthodique de plus de 10 soldats russes qui étaient immobilisés avec des tirs directs dans la tête comme une exception tragique, a déclaré le ministère russe de la Défense. Cette accusation intervient après la mise en ligne sur les réseaux sociaux de 2 vidéos d'une trentaine de secondes chacune, présentées comme montrant l'exécution de militaires russes qui venaient de se rendre aux forces ukrainiennes. Sur la première vidéo, prise avec un téléphone portable, on voit un groupe d'hommes en uniforme militaire sortir d'une maison, les mains en l'air, puis s'allonger ventre à terre dans un jardin parsemé de débris, pendant que des soldats portant un brassard jaune pointent leurs armes sur eux. Une rafale de coups de feu retentit et la vidéo s'interrompt. La deuxième vidéo, prise depuis une hauteur, peut-être avec un drone, montre une douzaine de corps gisant au milieu de flaques de sang. L'un d'eux semble présenter une plaie au visage. Le Conseil russe des droits de l'homme a déclaré que les exécutions présumées avaient eu lieu dans le village de Makivka, dans la région de Luhansk, dans l'est de l'Ukraine, que l'armée ukrainienne a déclaré avoir repris cette semaine. Nous allons demander une réaction de la communauté internationale et une enquête, a déclaré le dirigeant de cet organe, Valery Fadiev. Nous sommes au courant des vidéos et nous les examinons, a déclaré à l'AFP un porte-parole des Nations Unies. Pour le ministère russe de la Défense, ces vidéos sont une preuve du massacre commis par les militaires ukrainiens contre des prisonniers de guerre russes des armées. Ce meurtre brutal de prisonniers de guerre russes n'est pas le premier ni le premier crime de guerre commis, a-t-il poursuivi. La sécheresse extrême aggrave la faim dans la Corne de l'Afrique, qui est également en proie à des conflits, a averti le Programme alimentaire mondial PAM. Le PAM a déclaré dans sa dernière mise à jour de la situation régionale publiée jeudi soir que dans la Corne de l'Afrique, principalement à Djibouti, en Éthiopie, au Kenya et en Somalie, quelques 22 millions de personnes étaient actuellement confrontées à une grave crise de la faim après 4 saisons des pluies consécutives ratées. Il est alarmant de constater que ce chiffre devrait augmenter. Une 5e mauvaise saison des pluies étant prévue d'ici la fin de l'année, a encore averti le PAM. Selon le PAM, les perturbations de l'approvisionnement en céréales et la hausse des prix causée par la crise en Ukraine ont poussé de plus en plus de personnes au bord du gouffre, dans des régions déjà éprouvées par la montée en flèche des coûts résultant de l'intersection du changement climatique, des conflits et de la pandémie de COVID-19. Nous n'avons pas le luxe de nous concentrer uniquement sur ce qui doit être fait aujourd'hui, a déclaré Michel Dunfer, directeur régional du PAM pour l'Afrique de l'Est, cité dans le communiqué. Nous devons également commencer à nous préparer au prochain choc, qu'il s'agisse de la prochaine sécheresse, de la prochaine inondation ou de la prochaine crise, a-t-il ajouté. En Éthiopie, les prix des denrées alimentaires n'ont jamais été aussi élevés, et ce, depuis l'apogée de la pandémie de COVID-19, selon le PAM. Quelque 3,9 millions d'enfants souffrent de malnutrition sévère en Éthiopie, soit environ la moitié de tous ceux qui souffrent de malnutrition dans la Corne de l'Afrique selon les chiffres du PAM. Il s'agit de la pire sécheresse, la plus sèche qu'il y ait eu depuis 40 ans. Nous entrons donc dans une toute nouvelle phase du changement climatique, a déclaré M. Dunfer. Le PAM a également indiqué que les pénuries extrêmes de nourriture et d'eau avaient tué environ 7 millions de têtes de bétail dans la Corne de l'Afrique, mettant en péril les moyens de subsistance des éleveurs qui en dépendent pour leur alimentation et leurs revenus. Les écosystèmes fragiles dans lesquels ils vivent et le mode de vie que ces terres ont permis d'entretenir pendant des générations s'effondrent progressivement en raison de schémas climatiques erratiques, a-t-il averti. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Les États-Unis ont mis à l'épreuve la patience de Pyongyang. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, a déclaré vendredi 18 novembre « Si Moscou préfère une approche diplomatique de la péninsule coréenne, il est clair que les États-Unis et leurs alliés dans la région préfèrent une autre approche. » Dans une interview accordée à l'agence de presse russe RIA Novosti, M. Ryabkov a déclaré que les États-Unis avaient mis la patience de Pyongyang à rude épreuve. L'essai de missile intercontinental de la Corée du Nord a suscité la colère et l'inquiétude du gouvernement américain. La porte-parole du Conseil national de sécurité de la Maison-Blanche, Adrienne Watson, a déclaré vendredi 18 novembre que les États-Unis prendraient toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de leur propre territoire et de celui des pays alliés, tels que la Corée du Sud et le Japon. L'armée sud-coréenne a annoncé vendredi que la Corée du Nord avait lancé un missile balistique de longue portée depuis la zone de Sunan à Pyongyang, en direction de la mer de l'Est, précisant qu'il s'agissait du dernier d'une série record de tirs de projectiles ces dernières semaines. Parallèlement aux exercices conjoints entre la Corée du Sud et les États-Unis, la Corée du Nord a intensifié ses essais de missiles. Le lancement est intervenu un jour après que la Corée du Nord a tiré un missile balistique de courte portée. Le ministre nord-coréen des Affaires étrangères a averti que Pyongyang mènerait une action militaire plus féroce si les États-Unis augmenteraient encore leur aide militaire au profit de leurs alliés régionaux. Dans le même ordre d'idées, de hauts responsables nord-coréens ont averti à plusieurs reprises qu'ils considéraient l'exercice militaire américain sur la péninsule coréenne ainsi que les exercices militaires avec la Corée du Sud et le Japon comme un acte hostile et une pratique pour attaquer la Corée du Nord. Les experts estiment que le lancement vendredi de l'une des armes les plus puissantes de la Corée du Nord est un signe clair que son dirigeant Kim Jong-un n'est pas satisfait des récents pourparlers. Au début du mois, la Corée du Nord a procédé à une série de lancements, dont un ICBM. Elle a également tiré un missile balistique à courte portée qui a franchi la frontière maritime entre les deux pays et a atterri près des eaux territoriales du Sud pour la première fois depuis la fin de la guerre de Corée en 1953. Après le tir du missile balistique nord-coréen, Tokyo a déclaré que le missile avait parcouru environ 1000 km et que les forces japonaises n'avaient pas tenté de le détruire en vol. Le ministre japonais de la Défense a également déclaré que le projectile avait atteint une altitude maximale de 6000 km et annoncé qu'il s'agissait d'un missile balistique intercontinental ICBM, ajoutant que le missile avait en outre le pouvoir de parcourir près de 15 000 km, ainsi qu'une portée suffisante pour atteindre le continent américain. Le premier ministre japonais a qualifié l'essai de missile nord-coréen d'absolument inacceptable et a déclaré que le missile balistique intercontinental semblait être tombé en mer à l'intérieur de la zone économique exclusive du Japon, près de l'île d'Hokkaido.
Bonjour à tous, bienvenue sur nos plateaux à partir de la capitale iranienne, Téhéran. Aujourd'hui est un jour noir pour l'Iran car mercredi 16 novembre, des attentats ont eu lieu dans plusieurs villes en Iran, notamment à Isfahan et à Izeh dans le Kurdistan iranien. Aujourd'hui donc c'est le sujet de notre débat. Des avertissements ont été faits par le gouvernement iranien dû au fait aux manifestations expliquant que le danger du terrorisme était là. Malheureusement, le 16 novembre, plusieurs familles en ont pâti, plusieurs personnes sont mortes, dont des enfants, dont des femmes et des enfants des civils. C'est le sujet de débat d'aujourd'hui. Je vous propose tout d'abord de regarder notre reportage et par la suite, nous ferons venir nos invités. Tout de suite, notre reportage.
Le gouverneur d'Isfahan annonçait la mort en martyr des deux combattants de Basij dans le quartier de Khaneh, dans le chef-lieu de la province, mercredi soir 16 novembre. Mohammad Jan Nesari, l'adjoint au gouverneur d'Isfahan chargé des affaires politiques, sécuritaires et sociales, annonçait la mort en martyr des deux combattants du Basij et les forces volontaires dans le quartier de Khaneh, au nord-ouest d'Isfahan. Lors des émeutes déclenchées dans certaines régions de la province d'Isfahan, mercredi, deux combattants Basiji ont trouvé la mort et deux autres ont été blessés. Des affrontements ont éclaté dans la ville de Semiram où trois personnes ont été tuées, a-t-il expliqué. Malheureusement, lors des émeutes dans le quartier de Khaneh, un motard a tiré sur la force de sécurité et deux des combattants volontaires Basiji ont été tués. Deux autres personnes ont été blessées, dont l'une se trouve dans un état critique. Une enquête est en cours et pour l'heure, la sécurité est rétablie dans la province d'Isfahan, a-t-il ajouté. Toujours dans la soirée de mercredi, des assaillants inconnus ont également tiré avec des fusils d'assaut de type Kalachnikov sur la foule et la police dans la ville d'Izeh dans la province de Khuzestan. Pour l'instant, on déplore 7 morts et 5 blessés, dont certains se trouvent dans un état critique. Le juge en chef de Khuzestan a déclaré « Trois principaux fauteurs de troubles et émeutiers d'Izeh ont été arrêtés et les opérations pour identifier et arrêter d'autres éléments sont en cours. » Aussitôt dans la soirée, le président Ebrahim Raisi a exprimé ses condoléances aux familles des martyrs de l'attentat terroriste d'Izeh et a ordonné au gouverneur du Khuzestan, Sadr Khalilian, de suivre les actions des services de renseignement et des forces de l'ordre en vue d'identifier et d'arrêter les auteurs de l'attentat terroriste. Quoi qu'il en soit, les événements de mercredi à Izeh et Isfahan montre que les séparatistes hostiles à l'ordre de la République islamique d'Iran sont entrés dans la phase d'actions armées après l'échec du projet de grève et d'émeute. De telles actions s'effectuent dans le but de provoquer une guerre civile dans le pays. Ces dernières semaines, de grandes quantités d'armes ont été découvertes dans les différentes régions du pays. Elles ont été introduites dans le pays clandestinement. Auparavant, John Bolton, ancien conseiller de Donald Trump et des responsables occidentaux proches des courants antirévolutionnaires à l'intérieur et à l'extérieur du pays, avait reconnu que l'Occident fournissait des armes aux émeutiers en Iran.
Nous revoilà sur les plateaux. Donc aujourd'hui, le sujet du terrorisme du 16 novembre dans plusieurs villes dans Iran, notamment Izé, dans le Kurdistan iranien, et à Isfahan. Monsieur André Chami, notre invité. Bonjour, monsieur André Chami, ravi de vous avoir sur nos plateaux aujourd'hui.
Bonjour, merci à vous, merci à votre invitation, pour votre invitation.
Notre deuxième invité, monsieur Amrouni, expert politique. Monsieur Amrouni, bonjour, ravi de vous recevoir sur nos plateaux.
Bonjour à vous et à votre invité de l'Alsace.
Alors, un sujet aujourd'hui qui est vraiment lugubre parce que avait été prédit par le gouvernement iranien en expliquant que les différentes situations de protection de l'État était mise en danger. Il y a eu des déclarations des terroristes, il y a eu des déclarations même d'un ancien conseiller de la Maison-Blanche, je parle de M. Bolton. Tout ça a donné le résultat de ce mercredi. Maître André Chami, quelques mots pour parler de la situation. Est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été déclaré par Bolton et les médias? Les pensez-vous responsables de ce qui s'est passé ce 16 novembre?
Vous savez, il n'y a rien de nouveau, si j'ose dire, en la matière, parce que les positions de Bolton sont toujours là. La volonté des États-Unis de déstabiliser la République islamique d'Iran a toujours existé. Bien pire encore, la volonté de détruire la structure de l'État a toujours été, je dirais, propagée et entretenue par l'administration américaine, qu'elle soit républicaine ou démocrate. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence de traitement en fonction du changement de la majorité aux États-Unis. Et là, je le dis parce qu'on est au lendemain des élections aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il ne faut pas espérer que si demain il y a une autre majorité qui devait arriver, la politique va changer. La question qui est posée en réalité au monde entier, pas seulement à l'Iran, est-ce que il doit, je dirais, y avoir encore sur cette planète un seul État qui a les clés en main de déstabiliser tous les pays du monde à sa guise, sans se poser de questions par rapport aux dégâts collatéraux, la population massacrée, les femmes et les enfants qui sont déchiquetés, les villes qui sont détruites. Les États-Unis pratiquent directement ou indirectement ce type de politique depuis des décennies, j'ai envie de dire depuis la Deuxième Guerre mondiale et depuis la baisse d'intensité de la présence britannique dans la région. C'est la puissance américaine qui est montée avec toute sa splendeur en termes de massacres, en termes de crimes, en termes de déstabilisation politique et de coup d'État. Et ce, à travers le monde, c'est-à-dire vous prenez l'Amérique latine, c'était le cas, vous prenez l'Afrique, c'est le cas, vous prenez même l'Algérie dans les années 80, ça a toujours été le cas, vous prenez même les alliés des États-Unis qui ont été, entre guillemets, passés par cette case-là, sont encore là. Et là, évidemment, le grand Satan pour les États-Unis, c'est l'Iran, et le grand Satan pour l'Iran, c'est les États-Unis. Et là, maintenant, on peut dire que la guerre est plus qu'ouverte parce que l'Iran ne s'incline pas devant la volonté américaine, ne s'incline pas devant le diktat que cherchent à imposer les États-Unis dans cette région-là. Et évidemment, avec les réussites à tous les niveaux politiques, économiques, scientifiques, industriels, militaires du côté Iran, évidemment, il y a une réaction que j'appellerais naturel pour ne pas dire allergique de la part des États-Unis pour, à ce moment-là, riposter. Et ces ripostes se font d'abord par une déstabilisation politique à travers les mouvements qu'on aurait pu comprendre dans d'autres circonstances. C'est-à-dire, si on savait que c'était des mouvements spontanés, que des gens ont envie de plus de liberté, plus de droits d'expression, etc., ou que sais-je, ça existe à travers le monde, j'ai envie de dire, et pourquoi pas en Iran. En revanche, quand on voit dans quel cadre ça se passe et dans quel, je dirais, dans quelle lignée c'est dessiné, on comprend que on essaye d'exploiter des petites frustrations ici ou là pour en faire effet boule de neige et à ce moment-là agrandir en quelque sorte les traits, pour ne pas dire aggraver le trait, pour transformer cela en une espèce de révolution de je ne sais quelle couleur, parce que les révolutions de couleur sont la spécialité des États-Unis et maintenant c'est connu et archi-connu, puisque maintenant c'est documenté, y compris par les Occidentaux eux-mêmes. Il n'y a pas de révolution à proprement parler. Il y a aujourd'hui des révolutions qu'on a appelées de couleur, qui étaient le printemps d'Arabe, mais en même temps, dans les anciens pays soviétiques, c'était les révolutions multicolores. Et aujourd'hui, on essaie de trouver, en quelque sorte, une révolution multicolore. Mais sachez une chose, c'est qu'il y a une volonté derrière, et c'est un terme qui a été utilisé, j'ai envie de dire, par les Américains et par les Occidentaux à bon escient, afin de syrianiser la situation en Iran. C'est-à-dire la volonté n'est pas simplement de créer des troubles ponctuels et instantanés. La volonté, c'est la dislocation pure et simple de l'État iranien et de la République islamique d'Iran. Et c'est en cela que les Iraniens devraient être conscients et oublier s'il devait y avoir des divergences entre les Iraniens pour des raisons que j'appellerais de détail. Aujourd'hui, c'est un front national qui doit s'opposer à cette espèce de tentative de déstabilisation de tout le pays. Et là, aujourd'hui, ce qui est pratiqué, c'est presque à l'identique de ce qui a été pratiqué dans d'autres pays, particulièrement en Syrie ou en Irak, c'est-à-dire on essaie de fomenter des moyens pour déstabiliser à travers les oppositions ethniques, les oppositions confessionnelles, les oppositions religieuses. Pourquoi pas demain, on essaiera d'opposer les chrétiens ou les juifs aux musulmans en Iran, on essaie d'opposer les sunnites aux chiites, mais en réalité, ils ne connaissent pas apparemment profondément le régime iranien, ils ne connaissent pas le fonctionnement de la République islamique d'Iran, mais la tentative est toujours là, pour ne pas dire la tentation est toujours là pour essayer de créer le trouble afin d'aboutir, selon eux, tôt ou tard, à la cassure de la République islamique d'Iran, et transformer le régime dans un autre régime qui soit plus favorable, en tout cas plus attentif aux diktats américains. Et à ce moment-là, les Iraniens redeviendront comme à l'époque du Shah, c'est-à-dire en quelque sorte les subsidiaires des Américains dans la région.
Merci, Monsieur André Chami. Ce qui est intéressant, ce que vous tout venez de dire, tout ce que vous dites est très intéressant et tout à fait vrai, surtout c'est la vérité. Quelques heures avant les attaques du 16 novembre, il y avait eu un autre débat où nous avions reçu Madame Issar Midani qui avait expliqué qu'une des choses qui avait été réalisée avant l'attaque en Syrie, avant les attaques en Syrie, c'était la mise sous silence de la télévision syrienne au niveau international, je parle bien. Cette semaine avant ce 16 novembre, il y a eu des sanctions qui se sont faites sur les chaînes iraniennes, les chaînes nationales iraniennes, dont internationales avec Press TV. Monsieur Amrouni, qui est notre expert politique, ce sont plusieurs semaines d'événements politiques, d'événements géopolitiques qui sont arrivés avant ce 16 novembre. Qu'est-ce que vous en pensez de tous ces événements qui sont succédés ou il y a eu des interventions étrangères. Je parle donc, par exemple, des propos de Daesh, des propos de John Bolton, qui sont venus dire que oui, nous sommes actifs en Iran, oui, nous souhaitons attaquer l'Iran. L'avertissement de nos ministres iraniens qui ont averti le danger qu'il y avait à l'heure actuelle en Iran face à ces interventions de terrorisme, parce que le 16 novembre n'est pas arrivé comme ça, ce sont différentes actualités qui se sont succédées. Qu'en pensez-vous ?
D'abord, toutes nos condoléances pour les familles des martyrs, des actes terroristes ignobles des groupes terroristes à l'intérieur de l'Iran. Vous savez, l'ennemi n'a jamais caché ses objectifs. Donc, les États-Unis, la Grande-Bretagne, Israël et certains pays arabes, ils ont toujours œuvré pour déstabiliser le gouvernement iranien. Et on voit que on a passé au plan B. Le plan A, c'était le retour de l'Iran à l'accord nucléaire dans le cadre des conditions américaines. et israélienne et saoudienne, pour dire les choses comme elles sont. L'Iran de M. Raisi, le gouvernement de M. Raisi, n'a pas accepté de donner, de s'agenouiller aux conditions américaines. Au contraire, donc, l'équipe qui a négocié le retour de l'accord, elle était bien déterminée à avoir tous les droits que l'accord lui-même donne à la République islamique, c'est-à-dire la levée des embargos et le retour des milliards iraniens qui sont dans les banques européennes et les banques américaines et coréennes. Donc, le plan B, c'est quoi? Le plan B, c'est la déstabilisation par d'abord un blocage de communication, c'est-à-dire on bloque les canaux de communication iraniennes ou qui sont alliés à l'Iran. Donc, on va les bloquer au niveau international. On va faire une pression diplomatique à l'extérieur, toujours sur au niveau de la communication, et on va passer aux actes terroristes. Ça, c'est nouveau. C'est-à-dire, ça, c'est ce qui est nouveau aujourd'hui. On a deux plans. On a le plan de Daesh, donc c'est des mercenaires au service des Américains, et on a le plan des groupes séparatistes kurdes ou autres. Donc, c'est un plan bien défini, c'est un plan financé par les Saoudiens, dirigé par les Américains et œuvré par des Iraniens à l'intérieur ou même des gens qui se sont infiltrés de la
plateforme. Pour l'instant, M. Amrouni, dans ce qu'on sait, pour l'instant, il y a une suspicion que ça vient d'éléments étrangers qui sont venus sur les territoires, notamment Izeh, qui est du Kurdistan iranien, qui n'est donc pas très loin du Kurdistan irakien. Donc, bien entendu, les rapports de police ne sont pas encore arrivés, ils sont en attente, mais il y a une grande présomption que ce soit des étrangers qui auraient fait ces attentats.
Oui, mais quand même, il y a eu beaucoup d'assassinats des grands chefs militaires, des scientifiques iraniens. Donc, ce ne sont pas les premières opérations militaires d'actes terroristes. Aujourd'hui, on a dans un autre plan, c'est-à-dire c'est un plan de déstabilisation du gouvernement de M. Raisi. Les États-Unis le sait très très bien, elle ne peut jamais déstabiliser le secteur politique iranien. Pourquoi? Parce que le peuple iranien soutient le gouvernement islamique. Par contre, ils veulent gêner, ils veulent démoraliser, démobiliser le gouvernement de M. Raisi. C'est-à-dire que ce gouvernement-là, il gêne donc toutes les tentatives américaines de garder à distance l'Iran de la Chine et de la Russie. Pourquoi ils ont activé le plan B? Parce que la relation entre la Chine et l'Iran s'est développée au niveau stratégique, et surtout la relation entre l'Iran et la Russie. Et donc, on a tout fait, même, si j'ose dire, il y a 2-3 jours, avec les attaques ou avec ce qui s'est passé sur la frontière de l'Ukraine avec la Pologne, les médias dans le monde occidental, ils n'ont jamais cessé pendant 3 jours à dire que ce sont des drones iraniens qui ont frappé donc dans le territoire polonais. Et donc cette histoire donc des drones iraniens, depuis une quinzaine de jours, donc l'Europe et les États-Unis ne cessent de parler de l'activité militaire iranienne à côté des Russes sur le sol européen. Et donc c'est pour cette raison qu'on voit les Européens, surtout les Allemands, et les Français qui mettent la pression sur l'Iran. En fait, le point crucial de cette attaque, si vous voulez, terroriste à grande échelle, c'est le rapprochement iranien avec la Russie. Et les Européens et les Américains ne veulent pas de ce rapprochement. Et donc, ils ont déclaré la guerre. C'est une déclaration de guerre. Ce n'est pas simplement des actes terroristes isolés. C'est une déclaration de guerre, c'est une pression à l'intérieur même de l'Iran, pour que l'Iran ne va pas trop loin dans ses relations avec la Fédération.
Merci, M. Emmanuel Amrouni. M. André Chami, êtes-vous d'accord avec le propos de notre invité? Êtes-vous d'accord par rapport aux relations internationales qui lient l'affaire du terrorisme du 16 novembre?
L'affaire est beaucoup plus grande, à mon avis, parce qu'il y a là la circonstance actuelle, mais il y a quelque chose qui est plus général, parce qu'en réalité, encore une fois, c'est un compte qui n'est toujours pas réglé entre les États-Unis et l'Iran depuis 1979. Et si on prend ces événements qui se sont produits dernièrement, on va dire oui, et il n'y a eu que ça. Mais regardez voir ce qui s'est passé depuis 1979. Les attaques n'ont pas cessé, les échanges n'ont pas cessé, dans le sens que j'appellerais coup pour coup. Et évidemment, sur d'autres terrains, comme le terrain de la Syrie, l'Irak, parce qu'on essaie de se rapprocher du territoire iranien. Ce qui s'est passé en Irak avec l'attaque de Daesh, la déstabilisation du pays, en l'occurrence l'Irak, c'était quoi? C'était dans le cadre d'un plan d'ensemble pour parvenir à une invasion de l'Iran, ou en tout cas à la, je dirais, à la fracture de la République islamique d'Iran. C'était ça, c'était un plan qui visait 11 pays, rappelons-le. On n'était pas en train juste de parler d'un petit morceau de territoire ici ou là, on parle de régions qui devaient être soumises au diktat américain. Et les moyens se sont multipliés. On est passé de la guerre qui a été, ou des guerres qui ont été déclenchées par George Bush, à ce qu'on appelait le software qui a été animé et orchestré par Obama. Et là, on revient à ce que j'appellerais les rapports de force, et on monte la tension parce qu'on a compris que la manière douce, en tout cas la manière où on essaye de créer des petites secousses, n'est pas suffisante. Il fallait donc créer de grosses secousses, et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, les moyens ont été augmentés, et ils vont même plus loin, parce que le fait de se rapprocher davantage de la Russie, là on est monté d'un échelon dans les tensions. Et quand on se rapproche davantage de l'Iran, c'est-à-dire en s'en prenant directement au territoire iranien et non pas simplement autour de l'Iran, c'est-à-dire le Kurdistan, ça veut dire l'Irak, ça veut dire même l'Azerbaïdjan, toutes ces zones-là ont été plutôt des zones de déstabilisation qui visent in fine l'Iran, qui ne visaient pas particulièrement l'Irak. L'Irak, c'est un marchepied pour plus gros. Même si l'Irak est important sur le plan économique, mais il n'en reste pas moins que sur le plan géostratégique, c'est l'Iran qui est in fine visé.
Oui, vous parlez de géostratégie, je rebondis sur ce que vous dites, vous parlez de géostratégie, est-ce que ce n'est pas une stupidité géostratégique quand on est en conflit avec la Chine sur Taïwan, avec des conflits économiques à Taipei, quand on est en conflit avec la Corée du Nord, parce que dernièrement également les tensions ont monté d'un cran, quand on est en conflit avec le système ukrainien, parce que Kiev également, il y a des problèmes. Je veux dire, à l'heure actuelle, cette semaine, l'Union européenne a bien dit qu'on mettrait des limites à la suivi de la politique de Kiev. Et quand encore, on ne parle même pas encore du continent africain, où il y a d'autres enjeux, parce qu'il faut encore rappeler qu'à l'ONU, l'Afrique n'a pas suivi les recommandations des pays occidentaux pour, je crois que c'est 27 États africains, c'est quand même un certain nombre quand on connaît les conflits qui existent en Afrique, 27 États africains qui ont décidé de ne pas suivre la demande de projet de paiement de la Russie pour l'Ukraine. C'est quand même des dossiers extrêmement lourds. L'Iran, venir attaquer l'Iran alors que l'Iran n'attaque personne. Dernièrement, il cherche juste à rendre d'amitié avec la Syrie, avec l'Irak. On va dire quand même que c'est un générateur de stabilité en ce moment, l'Iran. Pourquoi rentrer en conflit avec? Pourquoi s'opposer à son média? Et surtout, le gouvernement iranien récemment a décidé, et je ne serais pas étonné que dans le futur, il souhaite directement s'attaquer aux médias qui se sont pris à eux, qui ont permis à ce que l'Iran soit moins safe, j'ai envie de dire, moins sécure. Et ils ont clairement dit qu'ils prenaient responsables les médias et tous les médias et réseaux sociaux qui ont permis à ce qu'on en arrive à des manifestations qui rendent l'insécurité totale en Iran, qui ont permis, parce que ce qui s'est passé à Isfahan ne serait pas arrivé il y a 2 mois, parce que le gouvernement iranien a toujours su protéger ses frontières. Daesh n'est pas arrivé hier, Daesh est arrivé depuis plus de 11 ans. Donc c'est là que vient la question. C'est pourquoi on arrivait là alors que l'Iran pourrait être juste un générateur de stabilité dans la région?
Alors, il y a deux choses. Alors, pour la petite histoire, les amis autour de moi, ils m'ont dit que je serais blacklisté sur la liste des États-Unis parce que j'interviens sur votre excellente chaîne, et par conséquent, et ne vous étonnez pas si un jour, moi, je serai sur la même liste des organisations terroristes ou des personnes recherchées. Mais j'ai envie de dire, moitié blague à part, pour parler du rôle des médias, mais également de ce qui se passe actuellement. Le rôle des médias, c'est un accompagnateur, si j'ose dire, des politiques. À partir du moment où vous supprimez le support, ou en tout cas vous déstabilisez ou vous bloquez le support, on croit aussi déstabiliser la politique de communication de ce pays-là. Mais derrière tout cela, il y a quelque chose de fondamental. C'est que les États-Unis savent que le jour où il n'y aura plus de guerre dans le monde, le jour où il n'y aura plus de tension dans le monde, ce sont les États-Unis eux-mêmes qui se trouveraient déstabilisés, parce que c'est un pays qui est déjà en situation de scission. Il faut quand même le reconnaître. Il y a un excellent démographe français qui est Emmanuel Todd, qui a annoncé il y a maintenant plus de 10-15 ans la chute de l'Empire en parlant des États-Unis. C'est-à-dire, quand on regarde démographiquement, politiquement, ce que j'appellerais économiquement, les États-Unis finiront par disparaître. Ne croyez pas que je suis en train de raconter juste des vœux qui vous concernent personnellement, mais non, quand on fait une analyse profonde de la situation des États-Unis, de la société américaine, c'est une société qui est en, j'ai envie de dire, en sursis de scission. Et cette question-là est toujours posée.
Merci, monsieur Amrouni. Merci, monsieur André Chami. Désolé, malheureusement, le débat doit prendre fin. Il y a beaucoup de choses à dire. La situation est également critique à cause du nombre de morts. Des enfants et des femmes, encore une fois, ont été victimes de ces actes terroristes. Malheureusement, le débat finit maintenant. Je vous propose de nous rejoindre pour un autre débat, une autre fois. Moi, je vous dis au revoir à partir des studios ici de Téhéran.
Le plan économique de Jeremy Hunt remet les pendules à l'heure de l'austérité. Alors que la récession sévit au Royaume-Uni, le Premier ministre britannique Rishi Sunak et son ministre des Finances Jeremy Hunt ont dévoilé jeudi 17 novembre un budget d'austérité. Un ensemble massif de 55 milliards de livres qui repose sur de hausses d'impôts et de réductions de dépenses. Hunt a dévoilé son plan budgétaire qui, selon lui, réduirait la dette publique en pourcentage de la production économique en 5 ans et a resserré un éventail de mesures fiscales. La chancelière a également confirmé que les mesures sévères étaient nécessaires pour apporter la stabilité financière après les récentes turbulences, soulignant qu'elles atténueraient la récession plutôt que de l'exacerber. Citant l'Office britannique pour la responsabilité budgétaire, Jeremy Hunt a en outre déclaré au Parlement que le Royaume-Uni, comme d'autres pays, est maintenant en récession. Une récession est une période de déclin économique temporaire au cours de laquelle l'économie d'un pays se contracte pendant deux périodes de trois mois ou trimestres consécutifs, comme en témoigne l'état actuel du Royaume-Uni où le pays fait face à la plus longue récession depuis un siècle qui a provoqué une inflation sans précédent dans le pays. Le budget a été présenté environ deux semaines après que la Banque d'Angleterre a averti que le Royaume-Uni faisait face à sa plus longue récession depuis le début des records jusqu'à la mi-2024. Suite à la déclaration de Hunt, l'Office pour la responsabilité budgétaire, un organisme de surveillance budgétaire, a publié ses prévisions de croissance de novembre, prédisant que l'économie britannique se contracterait d'1,4% l'année prochaine, le niveau de vie baissant de 7% au cours des deux prochaines années. Les données officielles montrent que la production économique en Grande-Bretagne a diminué de 0,2% au troisième trimestre de cette année. L'économie britannique s'est contractée au cours des 3 mois précédant septembre au début de ce qui devrait être une longue récession, soulignant le défi pour le ministre des Finances, Jeremy Hunt, alors qu'il se prépare à augmenter les impôts et à réduire les dépenses la semaine prochaine. La production économique a diminué de 0,2% au troisième trimestre, moins que la contraction de 0,5% que les analystes avaient prévue dans un sondage Reuters selon les données officielles de vendredi 11 novembre. Mais il s'agissait de la première baisse du produit intérieur brut depuis le début de 2021, lorsque la Grande-Bretagne était encore soumise à des restrictions strictes contre le coronavirus, alors que les ménages et les entreprises étaient aux prises avec une grave crise du coût de la vie. L'économie britannique est désormais bien en deçà de sa taille d'avant la pandémie. C'est la seule économie du G7 à s'être encore complètement remise de la crise du Covid et plus petite qu'elle ne l'était il y a 3 ans sur la base d'un trimestre civil. Le ministre des Finances, Jeremy Hunt, a renversé la plupart de ses plans au cours de ses premiers jours de travail et devrait annoncer de fortes hausses d'impôts et des réductions de dépenses dans le but de réduire la dette à moyen terme. En réponse à ces informations économiques, Hunt a déclaré « Je ne me fais aucune illusion sur le chemin difficile à parcourir, un chemin qui nécessitera des décisions extrêmement difficiles pour rétablir la confiance et la stabilité économique. Mais pour parvenir à une croissance durable à long terme, nous devons maîtriser l'inflation, équilibrer les comptes et réduire la dette. Il n'y a pas d'autre moyen. » La semaine dernière, la Banque de la Grande-Bretagne a annoncé que l'économie du pays était au bord de la récession qui durera jusqu'à 2 ans si la hausse des taux d'intérêt se poursuit. La banque a également averti que même sans la hausse des taux d'intérêt, l'économie se contracterait d'ici la fin de 2023. Les économistes estiment que les inquiétudes sur la stagnation économique se sont transformées en réalité. Le déclin de l'industrie manufacturière au Royaume-Uni est le début d'une longue récession, alimentée par une inflation élevée, des factures d'énergie et des taux d'intérêt en once. Rien qu'en septembre, lorsque les funérailles de la reine Elisabeth ont été marquées par un jour férié unique qui a fermé de nombreuses entreprises, l'économie britannique a reculé de 0,6%, a déclaré l'Office ONS. Il s'agit d'une baisse mensuelle plus importante que la prévision médiane d'une contraction de 0,4% dans le sondage Reuters et la plus importante depuis janvier 2021, lorsqu'il y a eu un verrouillage du Covid-19. Mais les données du produit intérieur brut pour août ont été révisées pour montrer une contraction marginale de 0,1% par rapport à une lecture initiale d'une contraction de 0,3%. Et le PIB en juillet était désormais considéré comme ayant augmenté de 0,3% contre une estimation précédente de 0,1%. Les révisions à la hausse des données du PIB de juillet et août reflétaient principalement de nouveaux chiffres trimestriels sur la production de la santé et de l'éducation, ainsi que des lectures plus solides des secteurs professionnels et scientifiques et du commerce de gros et de détail, a déclaré l'Office ONS. L'Union européenne a prévenu que la zone euro était susceptible de tomber en récession au cours de l'hiver. Bruxelles ressent les prévisions d'inflation pour 2022 et 2023 dans un contexte de flambée des prix de l'énergie. L'Europe est aux prises depuis des mois avec de graves ondes de choc économique liées à la guerre en Ukraine, qui ont alimenté une flambée des prix de l'énergie et affecté le porte-monnaie des consommateurs sur le continent vert. L'exécutif de l'Union européenne a déclaré vendredi 11 novembre que la zone euro et de nombreux États membres de l'Union européenne entreraient probablement en récession au dernier trimestre de l'année, alors que l'inflation continue de grimper en flèche et que les coûts élevés du carburant et du chauffage frappent le pouvoir d'achat des consommateurs. Selon ses prévisions, les prix élevés de l'énergie, l'augmentation du coût de la vie, la hausse des taux d'intérêt et l'incertitude générale devraient pousser l'Union européenne, la zone euro et la plupart des États membres en récession au dernier trimestre de l'année. La Commission européenne a annoncé que le déclin de l'activité économique devrait se poursuivre au premier trimestre 2023, de sorte que la croissance pourrait revenir sur le continent au printemps de l'année prochaine. En raison d'efforts vents contraires qui freinent la demande, l'activité économique va ralentir et la croissance du PIB tombera à 0,3% en 2023. Cette prévision est intervenue alors que la Commission a fortement augmenté ses prévisions d'inflation pour cette année et l'année prochaine. L'inflation dans la zone euro devrait atteindre 8,5% en 2022, soit un point de plus que prévu, et 6,1% en 2023, soit deux points de plus que prévu. Le commissaire européen à l'économie, Paolo Gentiloni, a déclaré que l'inflation augmente plus que prévu, mais qu'elle s'approche d'un pic et qu'elle devrait atteindre ce pic à la fin de cette année.